réplique La vérité en sursis avec Myriam Revaud-Dallone et Rana Lévy. Jusqu'à une date récente, on pouvait croire que la rectification de l'histoire et de l'actualité était le sinistre apanage des régimes totalitaires. L'opposition semblait claire et définitive. Dans les démocraties où l'information est libre, les faits sont têtus. Sous le règne de Big Brother, ils sont fragiles. Mais voilà que ce grand partage se brouille. Au lendemain de l'inauguration de Donald Trump, le porte-parole de la Maison-Blanche a certifié contre toute évidence que la foule présente à la cérémonie était la plus considérable de l'histoire américaine. Et quand un journaliste s'est ému de cette contre-vérité flagrante, la responsable de la communication présidentielle lui a répondu tranquillement « Il n'a pas prononcé des contre-vérités, Chuck. Il a proposé des faits alternatifs. » Donald Trump est certes un cas à part, mais ce genre de proposition extravagante pullule aujourd'hui dans nos sociétés développées. En France, Maxime Nicole, l'une des principales figures du mouvement des Gilets jaunes, a mis en doute la réalité de l'attentat de Strasbourg sans être désavoué ni a fortiori disqualifié par les autres manifestants. Il n'y a donc rien de surprenant à ce qu'en 2016, le mot « post-vérité » ait été choisi comme mot de l'année par le très sérieux Oxford English Dictionary. En 2013, l'heureux élu avait été « selfie ». Bienvenue dans le troisième millénaire. Comme nous n'avons pas le choix de l'époque où il nous est donné de vivre et de mourir, autant essayer de la comprendre. Myriam Revaud-Dallone, dans son livre « La faiblesse du vrai » et Rana Lévy, dans un article du débat intitulé « Le nouveau régime de la vérité », ont analysé ce phénomène inquiétant. Ils pourront donc répondre à ma perplexité. Que nous arrive-t-il? Pourquoi les démocraties sont-elles frappées aujourd'hui par un mal que l'on croyait inhérent aux dictatures? Myriam Revaud-Dallone.
D'abord, ce qui touche la démocratie en ce qui concerne la vérité n'est pas exactement du même ordre que la généralisation du mensonge totalitaire qui, au fond, s'abritait derrière une idéologie extrêmement compacte et extrêmement systématique qui, au fond, ce règne du mensonge organisé avait pour effet de recouvrir la réalité et la réalité de l'expérience d'un système idéologique extrêmement cohérent qui permettait de, au fond, de donner des réponses à tous les problèmes. La question qui se pose en démocratie, je dirais qu'elle est presque inverse. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas cette réalité alternative ou ces faits alternatifs dont parlait la conseillère de Trump, Kellyanne Conway, relève au fond d'une exaspération du relativisme des opinions. C'est-à-dire qu'il y a au départ, dans la démocratie, je ne dirais pas que la démocratie elle est liée au relativisme des opinions, mais dans la mesure où la démocratie repose sur l'échange des idées, sur le débat public, sur la délibération. Cette délibération, on le sait, n'a de valeur que si elle est appuyée sur des faits. Hein, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi. C'est-à-dire que le débat démocratique ne consiste pas, en toute rigueur, à dire « c'est mon opinion » ou « c'est ma vérité ». Mais le problème, c'est qu'effectivement, ces jugements partagés peuvent, à un certain moment, perdre le contact ou perdre le rapport avec la réalité des faits. Il faut quand même rappeler que ça n'a pas commencé avec Trump, mais il faut rappeler que, par exemple, les propos de Forisson, hein, que le négationnisme est d'une certaine façon la première fois dans l'histoire de la démocratie qu'on a émis sur la place publique une opinion dont on a soutenu que peu importait qu'elle repose sur la réalité des faits, et ce, sous les yeux des témoins.
Ah, il disait pas, peu importait qu'elle repose sur la réalité des faits. Forisson se présentait lui-même comme un chercheur.
Il avait fouillé cette
réalité. Et c'est au terme de son enquête qu'il concluait que les chambres à gaz n'avaient pas existé.
Au terme quand même d'une pseudo...
Oui, pseudo-enquête, mais il présentait comme ça.
Mais la position consistait effectivement à nier la réalité des faits et à avancer une opinion qui était déconnectée, présentée certes comme soi-disant une thèse pseudo-scientifique, mais qui était déconnectée de la réalité des faits. Donc là, il y a quelque chose, au fond, qui est une matrice, de ce qui peut se développer. Et il y a un problème, je pense qu'il y a dans la démocratie un problème structurel. Encore une fois, non pas que la démocratie ce soit le règne de la relativité des opinions, mais il y a quelque chose d'extrêmement fragile dans la délibération publique, dans le débat, dans le fait de discuter des positions. Et Arendt le souligne très bien lorsqu'elle dit « une opinion n'a de validité que si elle est appuyée sur des faits ».
Alors Arendt dit ceci dans un très bel article « Vérité et politique » publié dans la Crise de la culture. « Les faits sont la matière des opinions ». Et les opinions inspirées par différents intérêts et différentes passions peuvent différer largement et demeurer légitimes aussi longtemps qu'elles respectent la vérité de fait. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Et le mot farce, en effet, évoque Donald Trump.
Tout à fait.
C'est peut-être qu'on entre justement dans ce monde de la farce les opinions se distinguent de plus en plus mal. Rana Lévy.
J'hésiterais d'associer le phénomène Forisson à la post-vérité. Forisson prétendait révéler une vérité qui aurait été cachée pendant très longtemps et dont il voulait démontrer, à la suite d'une supposée recherche très poussée, que la vérité de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Ce qui caractérise notre époque, ou ce que nous désignons de manière un peu générale ou vague la post-vérité, c'est que la ligne de démarcation entre la vérité et le mensonge sont effacées. C'est que la vérité a perdu de ce surmoi moral et politique qu'elle jouait dans notre vie publique. C'est qu'on ne la voit plus. C'est que le mensonge a une sorte de valeur et une puissance presque aussi importante que la vérité. Et que, pour revenir aux faits, comme disait Aron par anticipation, les faits sont devenus maudits. Pendant la campagne du Brexit, un milliardaire qui était favorable au retrait britannique a utilisé comme argument, qui était très frappant à la télévision, il a dit « facts don't work ». Les faits ne marchent pas. Et un des soutiens de Trump à CNN a expliqué ou a dénoncé « cette chose n'existe plus malheureusement, les faits ». Il n'y a que la vérité relative, la vérité que Trump est en train de promouvoir. Donc nous sommes dans un monde différent, dans la mesure où, quand on a toujours menti en politique, et pas seulement en politique, mais on voyait toujours la ligne qui sépare la vérité du mensonge. On savait très bien qu'on traversait la ligne. On savait qu'on commettait un mensonge, on le regrettait plus ou moins. Mais là, par exemple, dans la campagne de Trump et dans la campagne du Brexit, la vérité est devenue une affaire gênante et elle est devenue, comme disait un commentateur, « irrelevant », non pertinente. Elle n'existe pas, elle gênait et la réceptivité, c'est un autre élément nouveau de notre époque, était surprenante. Les gens acceptaient le mensonge parce qu'il leur faisait du bien, parce qu'ils épousaient leurs préjugés ou leurs ressentiments.
Oui, ils leur faisaient du bien, dans la mesure où ils ne le pensaient pas comme un mensonge.
Exactement.
Oui. D'ailleurs, c'est aussi une phrase de Arendt, « Le mensonge est plus fort que la vérité, car il comble l'attente ». Et la vérité, quelquefois, au contraire, elle est inattendue,
elle dérange, elle déçoit.
Mais ce mensonge, il faut qu'il soit perçu comme vérité pour qu'il fonctionne.
Certains n'avaient cure de l'idée que la vérité soit vraie ou pas vraie Le problème n'était pas d'y croire, le problème c'est le bien qu'il leur faisait. Quand un journaliste va dans le Wisconsin interviewer des électeurs de Trump, il leur dit « mais vous savez, ça, tout ce qu'il dit est faux ». Il dit « on s'en fout, ça nous fait du bien, on veut l'écouter, on a trop enduré jusqu'à maintenant ». C'est-à-dire, pour eux, il y a des vérités ou des valeurs qui sont supérieures à la vérité triviale ou aux vérités triviales que Trump est en train de bafouer ou de bousculer. Et cette vérité de cette guerre civile ou guerre tribale qui secoue les États-Unis et dans laquelle Trump est du côté du bien.
Oui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la valeur, quand vous dites, on a toujours admis, plus ou moins, que le mensonge était inhérent à la politique. Et le fait de considérer que le mensonge était inhérent à la politique, même dans ses pires interprétations, même au niveau de ce qu'on appelle le machiavélisme, n'abolissait pas la question de la vérité. Le menteur, il sait qu'il ment, il sait qu'il manipule. Aujourd'hui, non seulement la valeur normative de la vérité s'est complètement effacée, elle est devenue totalement inessentielle. Encore faudrait-il savoir de quel type de vérité il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de vérité mathématique, de vérité rationnelle ou au contraire de, du régime?
Là, en l'occurrence, ce sont les vérités de fait. C'est voilà. La grande opposition de Leibniz que reprend
Arendt.
Voilà. Les vérités
Absolument,
de raison se démontrent, les vérités de fait se constatent.
Voilà. Et on est tout à fait en droit de parler de régime de vérité ou de régime de la vérité parce que ça ne fonctionne pas. Ce sont des régimes de fonctionnement. Un petit peu comme on parle du régime d'un moteur, de régime de vérité qui ne fonctionne pas de la même façon quand on est dans le domaine moral, dans le domaine mathématique ou dans le domaine de la politique. Et donc on est maintenant dans une espèce de, on pourrait presque appeler ça une zone grise où il devient, et d'ailleurs le dictionnaire d'Oxford dans son commentaire le signale, il dit la vérité est devenue inessentielle. Elle est devenue inessentielle, donc elle n'est plus une norme et il y a une sorte de brouillage des repères entre le vrai et le faux qui n'était même pas le fait des systèmes totalitaires. Parce que dans le système totalitaire, on peut parler d'un règne du mensonge organisé et au fond, d'une certaine façon, la distinction entre l'idéologie systématique et la réalité de l'expérience ou de l'expérience vécue ne disparaît pas.
Quand même, revenons à Trump. Vous avez dit, Anna Lévy, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout, ça nous fait du bien. Réaction de l'électeur moyen de Trump. Je m'interroge, pourquoi Trump leur fait-il du bien? Et là, je voudrais citer l'article de Gauchet sur la post-vérité, dans le dossier du débat où figure votre propre texte, parce que je pense, il nous met sur la voie de la compréhension. Il dit « La post-vérité est le rejeton adultérin du politiquement correct. Ces énormités transgressives ne se conçoivent qu'en réaction aux euphémismes lénifiants et aux interdits sournois dictés par le moralisme officiel. » La censure insidieuse des aspects de la réalité sur lesquels la bienséance commande de jeter le voile ouvre la porte à leur amplification effrontée. Donc, ça nous fait du bien parce que on nous a menti. On nous a caché la réalité. Donc, lui, il dit un peu n'importe quoi, mais il ouvre les portes. Est-ce que c'est pas ça le ressentiment qui est au fondement de la popularité dont jouit encore Trump auprès d'une partie de l'électorat?
Le rapport à la vérité, entre ce que nous appelons le phénomène Trump ou les phénomènes politiques tels qu'on l'a vécu avec les élections présidentielles et le Brexit, a un rapport évidemment avec, ou un système d'écho avec ce qu'on appelle d'une manière un peu sommaire le politiquement correct. Parce que là aussi, il y a un rapport à la vérité qui s'interdit d'affronter, de confronter la vérité. Où les vérités deviennent relatives et les vérités se caractérisent selon les groupes qui le reconnaissent comme tel. Nous sommes dans une situation où, dans certains milieux, aux États-Unis, certaines vérités ne peuvent pas être énoncées parce qu'elles gênent, parce qu'elles blessent, parce qu'elles sont incorrectes d'une certaine manière, et nous assistons à une sorte de tribalisation de la vie publique américaine qui se voit de la manière la plus frappante et peut-être la manière la plus extravagante dans les facultés, parce que ce sont des microcosmes où des groupes se composent selon leur identité, et chaque identité possède la série de vérités à laquelle elle veut bien croire, et qui interdit aux autres groupes de se mêler ou de commenter ces vérités parce qu'il s'agit d'une sorte d'intrusion. Peut-être le phénomène le plus extrême de cette tribalisation et de cette parcellisation de la vérité est dans le deux phénomènes récents qu'on a vu voir dans, apparaître dans les facultés, le trigger warning et le safe place. Le trigger warning, c'est-à-dire, c'est une sorte de système d'alerte qui met en garde les étudiants contre certaines réalités ou certaines vérités qui risquent de blesser leur sens de leur vérité subjective. Et le safe place, c'est l'endroit où, dans le passé, on pouvait héberger des personnes qui ont été heurtées par des attaques de tout genre et qui sont devenues les abris dans lesquels on se repose des vérités du monde qui menacent de vous indisposer ou de heurter votre sensibilité.
Et d'ailleurs, vous citez dans votre article Anna Levy le cas des autorités de l'Université de Californie qui ont déclaré comme micro-agression raciste l'affirmation que l'Amérique est une terre d'opportunité parce qu'elle peut suggérer que ceux qui échouent seraient responsables de leur échec. Donc effectivement, on est dans cet univers où il ne faut surtout pas blesser, donc toute vérité dérangeante ou même toute affirmation, toute proposition est évaluée à cette aune. Et encore une fois, je me demande si la popularité de Trump ne doit pas se concevoir en réaction à un tel phénomène.
Absolument, il en use. Au moment des élections, il y avait des sondages qui ont été publiés à propos du politiquement correct. Et il s'avère que 70% des Américains et 62% des électeurs démocrates disent que l'Amérique a un problème sérieux avec le politiquement correct. Et donc, Trump, qui d'une certaine manière est complice du phénomène qu'il dénonce, est devenu le champion du parler vrai contre les abus du politiquement correct qui abusent de la vérité à leur manière.
Marianne Bravo-Dallon.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur la description de ce processus de parcellisation, de repli sur soi qui est caractéristique de ce développement du politiquement correct. Mais je crois qu'on ne peut pas limiter non plus l'analyse de la post-vérité et des rapports entre vérité et politique à ce qui se passe uniquement avec Trump, puisque vous avez commencé,
vous avez commencé au début,
il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça. En particulier, le fait que les gens sont devenus d'une certaine façon imperméables à la vérité parce que ils ont envie d'entendre, enfin, comment dire, ils reçoivent ce qu'ils ont envie d'entendre, est lié au fait, je crois, très profondément, que, et ça peut expliquer structurellement le développement de la post-vérité, le fait que la démocratie est une société profondément déceptive, hein, c'est-à-dire qui entraîne de la déception, c'est-à-dire qui, d'une certaine façon, et c'est structurel, puisque la démocratie ne fait pas de promesses sur la réalisation d'un avenir meilleur, d'un paradis sur terre. Et que donc, le phénomène, au fond, de la croyance liée à une indifférence à la vérité est lié à cette structure démocratique, à l'insatisfaction ou à la frustration qui ne s'énonce pas seulement comme elle s'énonce aux États-Unis avec le politiquement correct, même s'il y a en France, par exemple, un développement effectivement dans certains secteurs du politiquement correct. Je crois que on ne peut pas. Il y a un développement de la post-vérité avec Bolsonaro. Il y a un développement de la post-vérité dans les régimes de ce qu'on appelle les démocratures ou les démocraties libérales. qu'il s'agisse de la Hongrie ou de la Pologne. Donc il faut un petit peu, je crois, dépasser le cadre factuel des États-Unis et se demander structurellement, puisque vous avez commencé comme ça, vous avez dit...
Oui, pourquoi les démocraties, oui.
C'est extrêmement important. Pourquoi alors, en démocratie et pas seulement pourquoi aux États-Unis?
Alors, je reviendrai sur la question du politiquement correct, du rapport aux fake news, parce que la question ne se pose pas en effet seulement aux États-Unis, mais je voudrais continuer ce que vous avez dit, Myriam Revaud-Allen, parce que tout à l'heure, vous avez expliqué que sous les régimes totalitaires régnait l'idéologie. En effet, vous êtes référé à Hannah Arendt et dans son livre Le système totalitaire, enfin le dernier volume des origines du totalitarisme, elle définit l'idéologie comme la logique d'une idée et elle dit que la pensée idéologique s'affranchit de toute expérience dont elle ne peut rien apprendre de nouveau, même s'il s'agit de quelque chose qui vient de se produire, puisqu'elle voit une réalité plus vraie que celle que nous percevons avec nos cinq sens. Et elle dit ceci, le concept d'hostilité est remplacé par celui de conspiration, et la réalité n'est plus vécue et comprise en ces termes propres, mais elle est censée sans cesse renvoyer à une signification autre. Or, c'est très exactement ce qui se produit de nos jours. C'est-à-dire que le grand récit sur lequel les idéologies se fondaient, par exemple le grand récit de la lutte de classe, a disparu, mais c'est comme si on assistait à sa place à une anarchie des grands récits.
Voilà.
D'autres grands récits les remplacent. Et là, Jérôme Fourquet, dans son livre « L'archipel français », explique que les récits alternatifs et complotistes prospèrent aujourd'hui. En décembre 2017, 32% de nos concitoyens se déclaraient d'accord avec l'assertion suivante, le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. Et 20% adhèrent à l'opinion selon laquelle certaines traînées blanches créées par le passage des avions dans le ciel sont composées de produits chimiques délibérément répandus pour des raisons tenues secrètes. Donc là, le phénomène est grave, c'est-à-dire que on avait cru en finir avec l'idéologie quand le totalitarisme s'est effondré, et là, c'est une idéologie ce sont des idéologies qui prolifèrent, et notamment sur Internet. Rana Lévy.
Des idées de complot, des conspirations existent depuis toujours. Mais ce qui était nouveau, ou ce qui paraît nouveau depuis quelque temps, c'est que même les politiques s'en emparent. On peut ne pas parler des États-Unis parce que Trump lui-même est un phénomène à part. C'est un génie du phénomène qu'il incarne et un praticien hors pair. Mais prenez le Brexit. Dans la campagne du Brexit, ce sont des politiques qui ont décidé de fabriquer des mensonges en fonction de leur efficacité électorale. C'est une chose inédite. Il y a des précédents, et les précédents, pour moi, en Angleterre, c'est l'ère de Tony Blair, où déjà des mensonges, où l'ordre du jour du débat public était dicté depuis Downing Street, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Mais ce mensonge que vous mentionnez dans votre livre, que j'évoque aussi, de ces 350 millions de livres qui sont utilisés toutes les semaines, qui auraient pu être utiles pour améliorer le système de santé défaillant en Angleterre, mais qui sont utilisés pour qui sont envoyés à Bruxelles, est un mensonge qui a été concocté par un conseiller politique qui ensuite, dans son blog, raconte comment ils ont testé le mensonge pour voir s'il était efficace. Ça, c'est un phénomène nouveau. L'autre élément qui donne à ces conspirations une puissance sans précédent, c'est évidemment l'évolution explosive des réseaux sociaux. Quand vous voyez un camionneur chez nous, assis dans son camion, dans une sorte de parking isolé, et qui, gère une conversation de centaines et de centaines de personnes où le mensonge est en train de circuler, là, nous sommes dans une autre ère.
Le camionneur, c'est Éric Drouet.
C'est Éric Drouet. Oui. Et c'est pas le Drouet de la Révolution française,
non,
avec lequel certains hommes politiques l'ont confondu. Et il faut ajouter autre chose, c'est que c'est un élément d'information. Aux États-Unis, aujourd'hui, les deux tiers de la population s'informent sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, mais pas seulement. Et une note de la Fondation Jean Jaurès nous a révélé que la moitié des Français, d'ores et déjà, s'informent sur Facebook.
Oui, tout à fait.
Moi,
je ne parlerai pas d'une prolifération des grands récits, mais d'une prolifération des petits récits.
Hein, oui, mais c'est, ils ont une ambition. Ils ont une ambition totalisante, c'est ça que je veux dire.
Je ne suis pas.
Ils disent.
Parce que.
Qui gouverne le monde, on va vous le dire.
Oui, mais ils gouvernent le monde, au fond. De façon paradoxale, par une sorte d'anarchie. C'est-à-dire que c'est une totalisation, mais une totalisation proliférante, et pas une totalisation, uniforme. Mais je crois qu'effectivement, tout ceci doit être rapporté. On ne peut pas analyser ces phénomènes sans se référer au versant subjectif, qui est celui de la croyance. Hein. On peut toujours parler des réseaux sociaux comme vecteur absolument fondamental, mais... J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le désir des individus, de ne recevoir que les informations qui leur font plaisir ou que les informations qui confortent leurs croyances préétablies. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier cette intensification de la déception. Et c'est là où il faut... vous avez parlé de la presse traditionnelle. Il y a à la fois la défiance à l'égard des politiques, la défiance à l'égard de la presse classique, de la presse traditionnelle, la défiance à l'égard des institutions, la défiance à l'égard de la démocratie représentative. Et on ne peut pas, dissocier cette multiplication des fake news... Et cette prolifération des réseaux sociaux, on ne peut pas la séparer, de la déception qui, d'une certaine façon, engendre aussi les populismes.
Oui, alors...
C'est le versant subjectif qui est très important à analyser.
Oui, le versant subjectif, mais la question technologique est importante aussi. Cela prospère, cela se développe. Sur les réseaux sociaux, on ne fait plus confiance aux médias, à la télévision. Avec la télévision, il y avait un monde commun. Tout le monde regardait le même journal télévisé. Le monde commun éclate et est pulvérisé aujourd'hui. Et puis surtout, et là, Régis Debray le dit très bien à un moment donné, la photo, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, tout n'est pas simulation. Je ne suis pas seul avec mes écrans. Il y a des choses qui me résistent. Je ne peux rien y faire. Il y a des indices. Je ne suis pas seul avec mes codes. Mais il dit, j'évoque un âge d'or. Tout ça a été précarisé par l'ordinateur. La photo numérique, elle, ne sera plus un certificat de réalité. Donc, on peut penser, en effet, que tout ce qu'on voit est mensonge, puisque tout ce qu'on voit peut être trafiqué. Et le mensonge prospère, justement, à travers cette dénonciation d'un mensonge généralisé. Et c'est là que c'est le paradoxe de la post-vérité.
Je ne parlerai pas de mensonge généralisé, je parlerai d'indifférenciation généralisée.
Oui, mais les gens disent... c'est-à-dire que les gens disent, on ne va pas regarder la télévision parce qu'elle nous ment.
C'est ce qu'a dit Drouet.
Et Maxime Nicole. Éric Drouet dit, c'est la mafia sioniste qui nous gouverne. Et Maxime Nicole dit, le sionisme, c'est vraiment dégueulasse. Il le dit d'ailleurs après ma petite mésaventure. C'est vraiment dégueulasse. Et n'allez pas voir sur Wikipédia, qui est déjà pourtant une encyclopédie bien contestable, allez voir sur Internet, vous verrez ce que je veux dire. Donc, allez voir sur Internet, parce que là est la vérité, tout le reste, c'est de la manipulation.
Non, mais allez voir sur Internet, parce que là, vous pouvez trouver tout ce que vous avez envie de trouver.
Exactement.
C'est-à-dire, en fait, moi, je pense que le versant technologique est fondamental, mais ce sur quoi j'insiste, c'est sur la relation entre le versant technologique et la question de la croyance, ou la question du désir de croire, de la subjectivité. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier les deux.
Absolument.
Il n'y a pas de développement technologique si ça ne s'enracine pas dans un désir profond, collectif, mais lié
la démocratie et à ce qu'elle peut avoir d'effectif.
Oui, lié à des conditions historiques et politiques extrêmement précises.
Rana Lévy.
Justement, la question de la croyance est ce que la dynamique des réseaux sociaux en font. D'abord, Arendt, dans l'article que vous avez cité, a ce mot merveilleux et il explique que l'avantage des inventions, des vérités qu'on fabrique, c'est qu'elles ont une force, une cohérence que la réalité ne peut avoir. La réalité est complexe, contingente. Quand vous inventez un complot bien ficelé, il a une force de persuasion, surtout sur ceux qui veulent se faire persuader, incomparablement plus puissante qu'une réalité dans laquelle on trouve, même si on n'est pas forisson, quelques détails qui sont un peu compliqués. Mais là où le phénomène technologique donne à la croyance une dimension tout à fait nouvelle, c'est que aux États-Unis, par exemple, vous avez aujourd'hui des communautés virtuelles. Et c'est ça un autre trait commun du Trumpisme, comme on peut l'appeler, et du politiquement correct. Les gens ne veulent pas côtoyer d'autres personnes qui ne sont pas de leur avis. La technologie leur permet de vivre en vase clos, de se faire livrer les informations qui leur conviennent, d'éviter d'être heurté par des informations qu'ils estiment fausses ou inconvenantes, et de vivre comme ça dans une sorte de tribalisme organisé et encadré, je dirais, avec le carburant meurtrier des réseaux sociaux.
Oui, ça me paraît un phénomène extrêmement important, parce que je pense que c'est l'un des éléments, au fond, de la faillite de la démocratie. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir être confronté à des opinions différentes, à des jugements antagonistes, et au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vouloir éviter l'élaboration du conflit. Non pas de la guerre, mais du conflit qui est l'essence même de la démocratie. Et donc c'est là où, quand on essaye aussi de dépasser l'aspect strictement technologique et fondamental, mais c'est là où on en arrive à ce que j'appelle une véritable atteinte au monde commun. Une atteinte au monde commun qui ne repose que sur le partage d'opinions à la fois fondées sur des faits, mais des opinions qui s'affrontent et qui sont des opinions différentes. Or, on a tout à l'heure évoqué le phénomène du repli, du politiquement correct. C'est pas sans rapport. Le politiquement correct, c'est aussi un phénomène de repli, un phénomène de resserrement. Au fond de ce qu'il convient de dire et de ce qu'il ne faut pas dire, et qui va de pair avec ces communautés, avec la constitution de ces communautés virtuelles qui sont précisément qui portent atteinte à la possibilité d'un monde commun.
Et bien,
un autre aspect sur lequel je voulais revenir et qui complique un peu les choses, je ne sais pas si vous alliez l'intention d'en parler, on a beaucoup parlé du mensonge, et dans ce très beau texte Arendt, ainsi que dans le texte sur le mensonge, Arendt insiste quand même sur une difficulté très particulière qui est l'affinité de la capacité à mentir et d'être libre. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, ça se trouve, c'est une merveilleuse idée et qui rend les choses très difficiles, puisqu'il ne s'agit pas simplement, au fond, d'adhérer à des mensonges parce que ça nous fait plaisir. Mais le menteur, c'est celui qui s'écarte de la réalité. Et donc il entretient avec la capacité de commencer quelque chose, avec la capacité d'être libre, une affinité qu'il est très difficile de se débarrasser.
Parce que la vérité est despotique.
Voilà, parce que la vérité est despotique, la vérité est contraignante, la vérité s'impose. Et excusez-moi, Virana Levy, je crois que j'ai lu dans votre texte, vous citez à un moment la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et j'ai relevé quand même que, moi j'ai repris le texte, je l'avais repris dans mon livre, et en fait, dans la déclaration d'indépendance, elle commence par « Nous tenons pour évidente que l'homme, que les hommes sont libres, qu'ils sont naturellement égaux ». Mais ce qui veut dire que quand on dit « nous tenons pour évidente », c'est le résultat d'un jugement partagé, c'est le résultat d'un conseil. Ce n'est pas une vérité contraignante, ce n'est pas une vérité qui s'impose. Et donc là, on a affaire au régime de vérité de la politique. C'est-à-dire un régime de vérité qui n'est pas soumis à des formulations mathématiques du genre 2 et 2 font 4, ou bien la vérité morale, tu ne tueras point. Mais quand on dit nous tenons pour évidente, ça veut dire au terme d'une délibération ou d'un partage, nous admettons, nous acceptons collectivement que les hommes sont libres, naturellement, égaux, etc.
Pour le dire autrement, ils n'ont pas eu besoin de recourir au concept de meurtrier de la volonté générale pour imposer des vérités, puisque les vérités, comme vous dites, étaient évidentes, c'était un régime de vérité. Si je peux ajouter juste un mot...
Je ne suis pas d'accord sur le concept, le caractère meurtrier de la volonté générale, mais c'est un autre...
Ça dépend de quelle période. Et ajouter un mot à propos du politiquement correct, et souligner cette extraordinaire contradiction au sein du monde académique, où on s'interdit d'explorer, d'affronter ou même d'évoquer de vérité dans des institutions qui, dont la vocation même est de promouvoir le savoir, donc d'atteindre des vérités.
Mais il n'y a pas que le monde académique. Donc je voudrais vous citer un exemple, à mon avis très intéressant et très paradoxal. La prolifération des fake news a provoqué dans la presse une réaction. On essaye de faire de la désintox, on met en cause ce qu'on appelle même l'infox, etc., dans tous les médias. Et voici par exemple ce qu'a fait Le Monde à propos d'une assertion: il n'y a plus un enfant juif dans les écoles de Seine-Saint-Denis. Ça a été dit par Raïm Korsia, le grand rabbin, mais aussi par Éric Zemmour et Éric Ciotti. Bien. Eh ben, le décodeur du Monde a dit, c'est pas vrai. Il y en a encore. Il y en a encore. Et à ce moment-là, il s'est fondé sur le témoignage d'un des dirigeants de la fameuse Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE. Oui, il y en a, dit-il. Et puis, dit-il aussi, certes, l'antisémitisme existe, on ne peut pas le nier, mais pas plus qu'ailleurs, faut pas faire d'amalgame, etc. La France profonde doit balayer devant sa porte. Ça, c'est sous le signe de la désintox. C'est très intéressant, parce que la réalité, c'est que les villes ou un certain nombre de communes de Seine-Saint-Denis se vident de leurs habitants juifs, de manière massive. Et que c'est un phénomène que certains journaux tardent à prendre en compte, parce que c'est une réalité dérangeante. Il y a un grand récit aujourd'hui. Il y a un grand récit. C'est plus de la lutte de classe, c'est plus l'exploitation, c'est l'exclusion. Voilà. Il y a un système de domination qui exclut des gens, et ces gens-là sont les victimes du racisme. Un certain nombre de réalités mettent ce grand récit en péril, notamment un antisémitisme qui viendrait d'une partie des exclus. Moyennant quoi, on refuse ces réalités déjà intéressantes et on place ce refus sous le signe de la désintox et de la chasse aux fake news. Donc, les fake news, si vous voulez, colportés au nom du refus des fake news. C'est aussi un des problèmes de notre époque.
Le phénomène n'a évidemment pas été réservé ou confiné au monde universitaire. Les étudiants quittent l'université. Ils entrent dans la vie publique, il leur arrive même d'être journaliste au Monde. Un journaliste du Monde qui se targue d'être un journal d'investigation, au lieu de se fonder sur telle affirmation, aurait pu prendre ses pieds, se mettre, aller à Saint-Denis, vérifier les registres des écoles, et à ce moment-là, il aurait vérifié l'authenticité des déclarations du grand rabbin de France, de Zemmour.
Mais, oui, mais non, parce que il dira, mais non, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Quand il dit plus un, c'est faux. C'est-à-dire, il prend au pied de la lettre une assertion auquel il oppose des statistiques, mais ces statistiques, en réalité, mentent, car elles sont là pour dissimuler une réalité massive dont Édouard Philippe, le Premier ministre, a résumé en ces termes, il parle d'un phénomène d'alia intérieur. Mais on voit que c'est une réalité gênante. Gênante pour le grand récit dominant de notre époque, celui qui alimente le politiquement correct, à savoir la domination et la multiplicité des exclus.
D'accord, je suis tout à fait d'accord, mais...
Myriam Revaud-Allonne.
Cet exemple est tout à fait, parlant, mais plus généralement, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que les efforts, il y a quand même un certain nombre d'efforts faits par la presse traditionnelle, dont on n'a jamais prétendu qu'elle était absolument liée à la vérité objective. Elle est aussi soumise à des contraintes idéologiques, à des contraintes économiques. Mais surtout, moi je pense que cette histoire de fact-checking ou de désintox ne suffit pas. hein, et qu'elle elle est certainement nécessaire, avec toutes les faiblesses que vous avez relevées à propos de, cet exemple. Hein. Enfin, encore que maintenant, le récit que livre Le Monde commence à être très sérieusement contesté dans l'ensemble de la société, puisqu'on sait très bien qu'il y a un exode massif,
Plutôt exode qu'alia, d'ailleurs.
Oui. Bon, une alia intérieure, ça, on le sait. Et donc, moi, je pense qu'on ne peut pas s'appuyer sur cet exemple qui est effectivement tout à fait...
Mais il est assez révélateur climat idéologique,
oui, tout à fait.
La désintox. Dans certains médias, la désintox devient le ministère de la vérité orwellien qu'elle prétend, au contraire, combattre.
Mais le problème, c'est surtout que c'est inopérant. Hein. Le problème, c'est que c'est inopérant et que, d'ailleurs, Benjamin et Adorno le signalaient déjà en 1933, au moment de la montée de Hitler au pouvoir, en disant qu'on avait beau tenter de rectifier un certain nombre de fausses informations, mais que c'était... au fond, relativement inefficace par rapport à l'emprise. Alors là, c'était l'emprise idéologique. Là, ça peut être un autre type d'emprise. Mais je crois qu'encore, il faut aussi remonter à des choses. Ces phénomènes de fact-checking, au fond, se présentent comme des face-à-face avec les fake news dans un univers dont on pense qu'on ne peut pas sortir parce qu'au fond, il n'y a pas d'alternative. Et le problème réel, il est là. C'est que tant qu'on vivra dans un monde où on nous expliquera qu'il n'y a pas d'alternative, ce fact-checking ou cette désintox ne suffiront pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose... c'est pour ça que j'insistais sur le fait de l'analogie ou de l'affinité entre le mensonge et la liberté. C'est-à-dire que sans un recours à une imagination qui dépasse cette espèce de face-à-face enfermé dans une société dont on ne peut pas sortir, on n'arrivera à rien.
Rana Lévy.
L'enjeu fondamental dans nos démocraties où on voit où tout l'encadrement politique traditionnel est en train de s'effriter, l'encadrement des partis politiques. Il y a un délitement des partis politiques qui est très frappant. L'enjeu fondamental est évidemment l'éducation. C'est par là qu'il faut partir. De là qu'il faut partir. Mais je dirais, je serais peut-être pas aussi pessimiste que vous à propos du fast-checking. Bon, vous avez raison, aux États-Unis, Trump, c'est un phénomène à part. C'est un monde à part. Mais depuis l'élection de Trump, la presse écrite prospère. Et le système de fast-checking est la rubrique la plus lue dans la presse. Évidemment, comme Trump profère 3 ou 4 mensonges par jour, il est très difficile de le rattraper. Et quand un journaliste lui rappelle son mensonge, il se souvient même pas lui-même du mensonge qu'il fait. Il dit « whatever ».
Whatever, oui, ça vous le citez.
Voilà.
Ce que je voulais dire, c'est que c'était une condition nécessaire, que c'était nécessaire, mais que ça n'était peut-être pas suffisant.
Oui.
Donc voilà, je suis pas pessimiste.
Le danger, chez nous, je crois, un fast-checking peut marcher très bien, à condition qu'il ne se fasse pas au service du mensonge et des préjugés préétablis dont il devient un des instruments.
Un mensonge, justement, qui se présente comme dévoilement de la vérité, c'est assez pervers et spectaculaire. Mais je voudrais en revenir à la fois à la question de la démocratie et à la question de la technologie, parce que je pense qu'elles sont mêlées.
Oui.
Je citerai d'abord la leçon inaugurale de Foucault au Collège de France, un texte très beau et très étrange. Très étrange. Il dit, il y a un ordre du discours, c'est-à-dire la production du discours est contrôlée, sélectionnée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers. Il énonce toutes ces procédures, l'interdit, l'opposition entre la raison et la folie, l'opposition du vrai et du faux. Et il dit, voilà, et il se place comme ça dans la perspective d'une utopie où les discours... Le discours deviendrait totalement libre, justement, et totalement incontrôlable. Mais j'ai envie de dire, cette utopie, on y est. L'ordre du discours, il y a un lieu où il ne sévit pas, c'est Internet. Parce qu'Internet, tout est égal. Le vrai, le faux, l'interdit, il n'y a plus rien. Et le tout est égal, là, ça me rappelle la démocratie. C'est-à-dire que c'est la potentialité nihiliste des démocraties. L'égalité folle qui mène au tout est égal. Et Internet est cette utopie, l'ultime utopie d'un discours que rien n'entrave. Un discours sans entrave, et c'est absolument épouvantable.
Alors écoutez, oui, non mais c'est vrai, ce qu'analyse Foucault, pas simplement dans l'ordre du discours, mais dans beaucoup d'autres textes, c'est ce qu'il appelle le régime de production de la vérité. Et, au fond, il prend en compte le fait que la vérité n'est jamais indépendante de ses conditions d'énonciation. Bon, alors on peut considérer que l'appareil technologique est aujourd'hui une condition, c'est ce que vous avez dit, une condition d'énonciation, non pas de la vérité, mais de l'effacement du vrai.
Procédures d'exclusion.
Voilà,
c'est ça.
Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand vous parlez de l'égalité démocratique et du fait que, au fond, elle donne le lieu à du n'importe quoi, je pense que c'est une véritable perversion ou une dénaturation de ce que, par exemple, je pense à Protagoras dans son célèbre dialogue avec Platon, quand Protagoras dit parle de l'égalité des citoyens et qu'il dit qu'il y a au fond une égalité potentielle dans la capacité à formuler des jugements. Bon, une égalité potentielle. Encore faut-il que cette capacité à formuler des jugements soit développée par l'éducation et essentiellement dans le cadre de la cité, par l'éducation civique, par l'éducation de la cité. Hein, c'est Finlay qui disait, dans la démocratie athénienne, c'est la cité qui était éducatrice. Or, effectivement, de nos jours, la cité n'est plus éducatrice. Mais l'égalité des citoyens, c'est pas la capacité, c'est pas la possibilité de dire n'importe quoi.
Oui,
c'est le fait que...
C'est une perversion, mais on a sentiment aussi que c'est une potentialité
démocratique. Mais de toute façon,
cette égalité totale, absolue, et que Internet, malheureusement, permet d'accomplir.
Vous n'empêcherez jamais les potentialités d'être perverties.
Voilà.
Mais Internet permet de l'accomplir en donnant un avantage évident au mensonge sur la vérité, parce que la vérité est fragmentée, parce que la vérité est grise, et parce que le mensonge...
Et qu'elle fait mal, parfois.
Elle fait mal, on ne veut pas l'entendre, alors que le mensonge peut avoir des cohérences, des attraits...
Il fait plaisir.
De plaisir qui lui donne une force dans ce monde égal incomparablement plus redoutable que la vérité. Je voudrais ajouter peut-être un mot à propos des experts. Et parce qu'on n'est pas, seulement dans un problème de crise de la démocratie, parce que les corps intermédiaires n'arrivent plus à remplir le rôle traditionnel qu'ils avaient, mais il y a une méfiance généralisée des experts. Il y a une méfiance généralisée des experts d'abord, parce que des experts ont été mobilisés au service de la post-vérité. Comme William Morris, cette société de cigarettes, recrute des scientifiques pour expliquer que le tabac ne produit pas de cancer. Il y a de quoi ensuite être sceptique quand un expert vous dit des choses...
Et Monsanto fait pareil pour ce qui
concerne. La deuxième raison qui est objective et qui fait partie de notre vie, c'est qu'il arrive aux experts de se tromper. Ils se sont trompés sur les réchauffements climatiques, ils se sont trompés sur beaucoup d'autres choses, et du coup, la fragilisation du statut des experts dans les sociétés ne fait que renforcer
ce phénomène,
l'industrie du mensonge.
Oui, mais la fragilisation des experts, elle est liée aussi au doute que l'on peut formuler à juste titre, par exemple, sur des formes d'expertise qui sont mises en position de savoir du politique. Hein, je pense, par exemple, à l'expertise économique, hein, qui mise, au fond, qui sert de garant, non pas du tout à l'exercice de la post-vérité, mais qui sert de garant tout simplement à l'exercice du pouvoir et qui permet ensuite de développer l'idée selon laquelle il n'y a pas d'alternative, puisque c'est comme ça, et puisqu'on n'a pas le choix, puisque l'économie mise en particulier en position de savoir dominant, eh ben ça veut dire qu'on ne peut rien faire d'autre que de s'aligner sur...
Prenez un exemple du Brexit. C'est-à-dire, il y a des experts qui ont expliqué qu'il y aurait un effondrement économique le jour où le vote du Brexit passerait. Il y en a d'autres qui ont expliqué que l'autonomisation de l'économie anglaise lui assurera une prospérité éternelle. Pour l'instant, on voit l'Angleterre, la Grande-Bretagne, je dis, s'enliser dans une crise sans fin. Qui dément les experts des deux côtés.
Oui, ça veut dire que ce phénomène d'expertise n'est pas simplement, ne développe pas simplement la post-vérité, mais qu'il est au fond, lié à un certain type de dénonciation politique de la vérité.
Et en même temps, il y a un problème.
Par exemple, les analyses de Foucault sur le néolibéralisme sont assez intéressantes.
Mais il y a un problème, notamment, si on lit le Brexit à la post-vérité et au mensonge, c'est aussi une manière de dire à tous les Européens qu'ils ne peuvent pas sortir de l'Europe.
Voilà.
Et alors ça, là, on revient dans ce monde sans alternative. C'est-à-dire, l'Europe, qu'on vous présentait comme une utopie, là, apparaît comme un destin, une nécessité, c'est un train, et personne n'a le droit de sauter en marche. Donc, il peut y avoir aussi cet usage-là de la notion de post-vérité. Vous êtes où vous êtes, vous pouvez vous plaindre, mais de toute façon, c'est irréversible. Oui, et effectivement, ça peut créer aussi un sentiment de malaise assez grave.
De frustration et de frustration. Déception.
Et donc, et ça nourrit le phénomène.
La réalité, ou je dirais la fatalité européenne, oblige ceux qui favorisent une sortie de l'Europe de concevoir un avenir politique cohérent.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Rana Lévy et Myriam Rodallone. Je rappelle, Rana Lévy, que vous avez publié dans le numéro du débat 197, novembre-décembre 2017, un article intitulé « Le nouveau régime de la vérité ». Quant à votre livre, Myriam Rodallone, « La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun », il est publié aux éditions du Seuil. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Gouverner en démocratie » et mes invités seront Nicolas Rousselier et Pierre-Henri Tavoyau. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. Dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.